We do biz.
We do biz.
Devenons business.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions sur Facebook, sur Twitter et sur redaction@widoubiz.com. 6 à 10 milliards d'euros cette année et 33 milliards pour l'année prochaine. Voilà ce que devra trouver le gouvernement pour rester dans les clous selon le rapport rendu hier par la Cour des comptes. Selon les experts, 2/3 des hausses d'impôts devraient être supportées par les entreprises. C'est pourquoi nous avons intitulé cette émission Entrepreneur, la rigueur, c'est maintenant, avec un point d'interrogation. Sur le plateau de We Do Biz pour cette première émission en direct d'Entrepreneur le Live, nous accueillons Laurent Vronsky. Laurent Vronsky, vous êtes vice-président de Croissance Plus, dirigeant d'Hervor, dernière société industrielle française de son secteur. Pierre Lasserie est également avec nous. Vous êtes dirigeant de Lowe & Dalmassaï, un cabinet de conseil en management global des coûts. Enfin, Bernard Cohen Haddad, vous êtes président de la commission financement des PME à la CGPME et président du think tank Étienne Marcel. Votre organisation vient d'ailleurs de publier une étude sur les difficultés des entreprises à accéder au financement. Alors messieurs, le Premier ministre, qui tient d'ailleurs actuellement son discours de politique générale, devrait obtenir sans difficulté le vote de confiance des députés. La confiance est-elle au rendez-vous chez les entrepreneurs que vous êtes et que vous représentez? Je démarre avec vous, Laurent Vronsky.
Aujourd'hui, on vit dans un climat économique qui est particulièrement difficile à prévoir. Depuis 2008, on encaisse des coûts relativement rudes. La confiance, c'est la confiance que j'ai dans nos clients et dans la capacité à récupérer des commandes. Ce que je constate depuis maintenant 3-4 mois, c'est qu'il y a un ralentissement très important au niveau de la conjoncture mondiale. Je rappelle rapidement que notre activité est résolument tournée vers l'export, donc on ne peut pas nous accuser d'être franco-français. On a vraiment une vision périphérique, puisque 90% de notre chiffre d'affaires est fait en dehors de la zone euro.
Donc globalement, si vous n'étiez pas là, la balance commerciale serait encore pire.
Bah, elle serait, oui, un tout petit peu, on va dire ça très modestement, mais elle serait un tout petit peu plus pire. Donc globalement, ce que je constate dans un nombre relativement important de secteurs, que ce soit dans le B2B, dans le B2C, c'est qu'il y a un ralentissement économique indéniable, également au niveau des pays en croissance qui traditionnellement compensaient les pertes de croissance dans les pays occidentaux. Je veux pour témoin la Chine, l'Inde, etc. Donc là, clairement, on est dans une mer économique relativement rude. Donc ça, c'est pour la confiance dans les perspectives macro. Maintenant, dans les perspectives micro, eh bien, je pense que malheureusement, j'ai pas un discours anxiogène, je pense que si la France était une entreprise, si j'étais un repreneur d'entreprise, j'aurais une tâche particulièrement rude pour la remettre sur les rails, tant ces indicateurs économiques sont plutôt dans le rouge.
Alors, Pierre Lasserie, vous-même, votre entreprise est spécialisée dans la gestion des coûts. L'entreprise France dont parlait Laurent Vronsky, comment elle peut gérer aujourd'hui? On le disait, hein, 6 à 10 milliards à trouver cette année, 33 milliards pour l'année prochaine.
Oui, alors c'est vrai que le climat est particulièrement anxiogène. Les indicateurs sont très mauvais. Finalement, c'est un petit peu la même chose pour les entreprises et pour les États, puisque tout le monde a compris que le financement, il y en a moins. Il faut donc trouver des économies. Et la Cour des comptes, elle a été constante là-dessus, a toujours dit que le rétablissement d'un niveau de déficit acceptable, puisque l'objectif des chiffres que vous parliez, dont vous parliez, c'est d'arriver à moins 3%, ce qui est en soi déjà pas un objectif satisfaisant. Ce qui serait satisfaisant, c'est d'être tout simplement à équilibre. N'importe quelle entreprise qui accumule des déficits depuis 30 ans, comme l'a fait notre beau pays, serait déjà morte et enterrée plusieurs fois. Donc il y a un vrai sujet qui va se traduire tant pour les entreprises que pour les États par une nécessité absolue de réaliser des économies. Ça n'est pas, pour ce qui concerne les États, en augmentant uniquement les impôts qu'on y arrivera. Au contraire, la Cour des comptes a toujours dit 2/3 baisse des dépenses et peut-être 1/3 hausse des prélèvements.
Donc les économies et la croissance sont pas incompatibles?
Ah bah, non, je pense qu'on va tous être d'accord. Les économies vont de pair avec la croissance. Il faut absolument conduire cette voiture avec un pied sur l'accélérateur et un autre sur le frein et appuyer en même temps, même si en vrai, ça, on ne va pas exactement appuyer sur les mêmes leviers, puisque certaines des dépenses doivent être coupées. Et je crois qu'il y a beaucoup de pistes là qui ont été identifiées, notamment par le dernier rapport de la Cour des comptes, et puis le séminaire gouvernemental hein, qui a demandé moins 15% en 3 ans, ce qui est quand même énorme sur les dépenses de fonctionnement de l'État. On parle de très nombreux milliards. C'est absolument concomitant d'efforts pour remettre la compétitivité du pays sur les rails et augmenter et donc favoriser la croissance. Ça va de pair et ça ne peut pas être dissocié.
Et alors ces efforts, on les demande aux PME ?
Juste une précision par rapport à ce que vous dites. Je pense que l'économie, telle que je la conçois, c'est un petit peu comme ce qui se passe le matin quand je mets mon pantalon, voyez-vous. C'est-à-dire que si j'ai du mal à rentrer dans mon pantalon, ou je dois élargir mon pantalon, ou je dois réduire mon ventre. Et c'est pas parce que je vais réduire mon ventre, forcément, que ça va nuire à mon bien-être. Bien au contraire, l'idée est de ne pas prélever de l'argent à des forces productives, dont nous sommes partis tous autour de la table, pour le réinvestir dans des forces qui ne sont pas productives. Donc, en clair, ce qui est intéressant, si je commence ce que vous dites, c'est de lutter contre le mauvais cholestérol, pas contre le bon.
Bernard Cohen-Haddad, vous souhaitiez réagir ?
Oui, moi, je pense qu'on n'a pas découvert que les entreprises patrimoniales sur notre territoire, celles qui m'intéressent, celles que nous sommes les uns et les autres autour de cette table, ont découvert la crise à 20h le 6 mai. Je crois qu'il faut quand même le dire. Depuis des mois, les uns et les autres, on travaille dans des commissions. On a eu un choc frontal à l'été 2011, ne l'oublions pas. Et aujourd'hui, effectivement, si on voit un petit peu notre état d'esprit, il suffit de regarder le dernier baromètre CGPME-KPMG, qui est quand même le plus mauvais depuis sa création. C'est 86% des chefs d'entreprise n'ont pas confiance dans notre économie. Alors, je ne dirais pas que l'État est en faillite, c'est d'autres qui l'ont dit, mais ils l'ont dit il y a bien longtemps quand ils étaient aux affaires.
Ouais. Et comme l'État, c'est nous.
Et comme l'État, c'est nous. Mais, pour reprendre une expression, je n'ai pas failli attendre, pour reprendre une expression de Louis XIV, néanmoins, ce qui est important, c'est de se faire confiance et surtout de voir comment on peut redonner le moral au chef d'entreprise. Parce que quand un chef d'entreprise n'a pas le moral, il n'investit pas et il ne se développe pas. C'est ça qui est fondamental. Et c'est pour cela que les mesures qu'on attend avec impatience, on les attend et on verra comment elles peuvent impacter notre morale.
Ouais. D'ailleurs, là-dessus, je pense que aussi bien les bonnes mesures que les mauvaises mesures que j'attends, elles finissent en hic. Moi, j'attends pas de dogmatique et beaucoup de pragmatique.
Et alors pour le SMIC, pour rester en hic.
Quelle est la question pour le SMIC ?
Une hausse de 2%. Les chefs d'entreprise que vous êtes, certains ont beaucoup eu peur d'une hausse plus importante. Finalement, à la gauche de la gauche, on dit que 2%, ce n'est pas assez. Qu'en pensent les dirigeants que vous êtes ?
Encore une fois, moi, je ne fais pas de politique. Donc, je vais vous donner une réponse pragmatique issue des tranchées. Alors, chez moi, j'ai pas de smicard. Donc, à la limite, je ne suis pas concerné par le sujet. La question, ce n'est pas ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on peut faire. Donc, vous avez des secteurs qui tiennent grâce à des bouts de ficelle parce qu'on a réussi à maîtriser, tant bien que mal, à coup d'aides relativement compliquées, échafaudées, la présence du secteur sur notre pays. Donc, la question, c'est si les entreprises ne peuvent pas s'offrir le SMIG et qu'en clair, elles s'écroulent, tout le monde sera content. C'est-à-dire qu'on sera mort guéri. C'est ça la question qu'il faut se poser. La plus belle des filles ne peut offrir que ce qu'elle a.
Alors, on dit souvent que la hausse des salaires limite la compétitivité de nos entreprises à l'international. Vous me dites, chez nous, chez Hervor, il y a pas de smicard et en plus, on fait 90% du chiffre d'affaires à l'export.
Alors, si vous voulez, je vais pas.
C'est le contre-exemple.
Je suis sur une radio où on s'adresse à des entrepreneurs. Je voudrais pas créer mes futurs concurrents. Enfin, je rigole. Simplement, aujourd'hui, nous employons de la main d'œuvre très qualifiée. Nous vendons nos produits qui sont des produits de haute technologie. Je rappelle que nos compresseurs, nous fabriquons des compresseurs. Ce sont des machines industrielles qui sont fabriquées à l'unité. Mais nous sommes tenus également à des impératifs de réduction de prix. Et j'insiste, nous avons des clients pour lesquels nous réduisons nos prix chaque année depuis plus de 10 ans. Et donc, comment le faisons-nous ? Ce n'est pas parce qu'on est des magiciens, c'est parce que justement, on fait appel à des entreprises comme la vôtre ou à nos brainstorming pour réduire nos coûts.
Pierre Lasserie, on vous tend la parole.
Oui, merci. Effectivement, pour aller dans ce sens-là, il y a eu un rapport qui est sorti hier, très intéressant, de Terra Nova, qui dit, avec une pensée pour son président, malheureusement décédé ce week-end, qui dit qu'effectivement, il faut absolument baisser le coût du travail. Donc moi, sur la hausse du SMIC, bon, tous les économistes dont je ne fais pas partie, je précise, sont d'accord pour dire que la hausse du SMIC, c'est destructeur d'emplois. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Le vrai sujet, c'est la baisse du coût du travail, comme l'a dit Terranova, avec, pour rebondir sur le propos de Laurent Bronski, avec la réorientation des mesures d'allègement vers les secteurs exposés à la concurrence internationale et par exemple, votre entreprise, qui fait 90% de son chiffre d'affaires à l'export, elle se bat contre des gens qui ont un coût du travail nettement inférieur à celui que nous avons en France. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir s'il fallait absolument alléger les bas salaires dans des secteurs comme l'hôtellerie, la restauration, le BTP, et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt cibler ce type de mesures vers des entreprises qui sont exposées à la concurrence internationale.
La TVA restauration va remonter d'ailleurs a priori. Hein. Bernard Coenadat, oui, vous souhaitiez réagir
sur le SMIC, parce que nous, CGPME, Jean-François Roubaud a exprimé
son président
a exprimé une position très claire. Nous sommes soucieux. Nous sommes soucieux parce qu'il ne faut pas oublier que le SMIC, c'est surtout des salariés, trop souvent, des TPE, PME, des commerçants, des artisans, et que l'on forme au fur des années, au fur des mois, pour leur donner plus de responsabilités, plus de salaires. Et qu'aujourd'hui, pour nous, on a une crainte parce que augmenter le SMIC, c'est peut-être fermer la porte à l'emploi, paradoxalement, alors qu'on veut privilégier l'emploi et l'équité sociale. Et si, effectivement, nous avons nos entrepreneurs qui ne veulent pas embaucher, qui ne peuvent pas embaucher parce que c'est trop lourd, les charges restent les mêmes, plus importantes, mais restent les mêmes, on ne crée pas de dynamique de l'emploi et on ne crée pas non plus de volonté. C'est ça qui nous soucie. C'est pas un problème d'équité sociale, c'est un problème tout simplement de comptabilité dans un compte d'exploitation. C'est aussi simple que ça, malheureusement.
La gestion en bon père de famille. Laurent Vansky.
Par rapport à la question que vous posez et aux réactions qui sont les nôtres, une des choses que j'attends des gouvernants de notre pays, c'est de pouvoir créer un climat économique qui soit propice à la croissance. Donc là, j'invente rien, évidemment. Hein.
Tout le monde est d'accord.
Là, on
oui.
est tous d'accord. J'aime pas la pluie, j'aime le soleil.
Mais comment
d'accord.
C'est
non, mais je pense que c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que quand tout va bien, enfin, ce que je veux dire est une évidence, mais quand tout va bien, on ne se soucie pas de ces choses-là. Quand vous avez une entreprise qui va bien, que vous avez des clients, que vous avez des commandes, vous ne payez pas les gens au SMIC. Pourquoi ? Parce que si ça se passe bien, que vous avez besoin de compétences, vous les payez, ces compétences. Par contre, quand on a un taux de chômage qui explose, quand on se demande ce dont demain sera fait, évidemment, là, on commence à se retourner les poches et à se dire, allez, SMIC, on rabote les salaires. Donc ça, c'est fondamental. Et ça, je pense que c'est un pari, un challenge extraordinaire qui attend nos dirigeants.
Et pour prolonger l'idée, bon, on est d'accord, hein, c'est effectivement les PME qui trinquent en priorité, parce que dans les grands groupes, il n'y a pas vraiment de SMICard non plus. Et donc, ce sont les PME qui sont directement impactées par cette mesure de hausse du SMIC si elle devait être plus importante. Mais pour prolonger, Laurent disait on a besoin d'un climat propice à la croissance. On est d'accord. On a aussi besoin d'une stabilité et d'une sécurité juridique.
Fiscale.
Juridique englobant, bien entendu, fiscale. On a un code général des impôts en France qui, instructions administratives comprises, fait 40 000 pages. 20% de ces 40 000 pages changent chaque année. On ne mesure pas, enfin plutôt si, on essaye de le mesurer, à quel point les PME ne peuvent pas suivre, ne peuvent pas opérer, les grands groupes non plus d'ailleurs, mais a fortiori les PME qui sont par définition plus démunis et moins armés par rapport à ce changement permanent, cette instabilité qui parfois, s'agissant justement de la fiscalité, on aura sans doute des mesures aujourd'hui qui vont être de nature rétroactive. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer pour 2012, et là on est le 3 juillet, d'ailleurs ça fait donc bientôt 7 mois que ça a commencé, il y a telle et telle mesure qui change rétroactivement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre stable qui permette à une entreprise d'avoir un minimum de sérénité, et ça frappe bien entendu en priorité les PME.
D'ailleurs, deux chiffres pour illustrer votre propos. En France, il y a 2600 seuils fiscaux. Et jusqu'au changement de gouvernement, en clair, il y avait un changement fiscal tous les 10 jours.
Oui, c'est le vrai sujet.
Bernard Cohen.
C'est le vrai sujet. Nous avions posé la question aux deux candidats. François Hollande, lorsqu'il est venu à la CGPME au début avril, l'a dit qu'il supprimerait une norme à chaque fois qu'une norme nouvelle serait mise en place. Rappelons-le, il y a 6000 normes chaque année, entre les normes européennes, les normes nationales, les lois, les décrets, les arrêtés et les normes régionales, ça fait beaucoup. Quand
difficile
même.
À suivre.
Difficile
pour et un patron. Et nul n'est censé ignorer la loi.
Est-ce qu'on peut les exporter, ces normes?
Je ne sais pas quand elles sont bonnes, on nous les vole.
Ça, pour la balance commerciale, ça serait pas mal.
Et donc, si un patron d'entreprise avait été élu président de la République, première mesure, la première, c'est tabula rasa, page blanche, on réécrit et on fait simple. Parce que le fait de dire, ça c'est une promesse d'ivrogne, le fait de dire à chaque fois que je mette une nouvelle mesure, je vais en rendre caduque une autre, c'est faux. Les modifications sont de nature à complexifier encore et toujours. La simplification n'a jamais eu lieu et c'est pas avec le train de mesure, pour, par ailleurs tout à fait nécessaire à la fois pour les entreprises et pour l'État lui-même qui doit se réformer, le train de mesure auquel on va avoir droit, que ça va aller en s'arrangeant. Il y a une complexité qui ne fait que s'accroître. C'est aussi du fait des formations supérieures, particulièrement de nos dirigeants, qui sont tous très intelligents, très diplômés. Mais au final, on n'a pas des mesures, tu disais pragmatiques tout à l'heure.
D'entrepreneur.
On n'a pas de pragmatisme.
Et lisible.
Il y a quand même aussi un point qui est très sensible, c'est ne pas appliquer de manière rétroactive des mesures défavorables aux entreprises. Au reste, ça s'appelle le principe de non-rétroactivité des textes ou des normes moins favorables. Ça, ce n'est pas aujourd'hui, en matière fiscale notamment, encore acté. Validé. Il faut le faire.
Pour les auditeurs simplement qui nous rejoignent, je le rappelle, on est en direct sur votre émission Entrepreneur, le live avec Laurent Vonsky, vice-président de Croissance Plus, dirigeant d'Hervor, avec nous également Pierre Lasserie, dirigeant de Lowen d'Almassaï, et Bernard Cohen-Haddad, président de la commission, financement de la CGPME. Tout à l'heure, Pierre Lasserie disait, les PME, ce sont les PME qui trinquent. Il y a quand même des mesures spécifiques pour nos TPE-PME aujourd'hui qui vise à les favoriser dans le projet de gouvernement.
Alors, c'est peut-être une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui les PME, elles cotisent, elles payent plus que les grands groupes. Lowen d'Almassaï vient de sortir ce matin une étude qui s'appelle l'indice TTC. C'est un nouveau ratio de taxation, un nouvel indice de taxation des entreprises et qui montre que la différence de taxation, si on englobe toutes les impôts, les charges sociales, les cotisations entre les PME et les entreprises, les grandes entreprises, c'est que 25%. Les grandes entreprises payent proportionnellement 25% de moins, y compris si on englobe toutes les charges sociales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a cette complexité qui est très difficile à appréhender compte tenu du maquis de textes, etc. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les PME, le challenge titrait il y a 2 semaines, ces PME qu'on assassine par rapport à leur relation avec leurs grands donneurs d'ordre, dans le cadre de la médiation des relations interentreprises, c'est valable en matière de taxation, c'est valable en matière de relation avec les donneurs d'ordre. Aujourd'hui, la France ne peut pas ambitionner de devenir l'Allemagne avec un tissu d'entreprises de taille moyenne forte, parce qu'aujourd'hui, on leur appuie dessus de manière extrêmement... Donc oui, il faut des mesures ciblées pour les PME, parce qu'aujourd'hui, c'est celles qui sont le plus victimes de la pression fiscale, sociale et des relations concurrentielles.
Laurent Vonsky.
Étant un démocrate convaincu, je vais aller dans le sens de Pierre. 94% des entreprises en France comptent moins de 10 personnes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que 99% pratiquement de l'économie, c'est les petites boîtes, en dessous de 10 personnes.
Donc si on favorise les PME, on favorise l'économie.
Vous me permettrez de vous reprendre, on ne favorise pas. On traite simplement le problème de la majorité, en bon démocrate et en bon républicain que je suis. Donc ça, c'est la première chose. Et justement, souvent, ce qui est assez désagréable pour le patron de PME que je suis, je rappelle qu'Hervor, c'est moins de 50 personnes, c'est qu'à chaque fois qu'on veut prendre un défaut, l'économie capitaliste, et n'ayons pas peur des mots, on vit dans une économie capitaliste, eh bien, on montre toujours du doigt des entreprises qui ne sont pas représentatives. Chaque fois qu'il y a des patrons qui se comportent mal, qui d'ailleurs ne sont
c'est
pas...
C'est quoi,
des,
c'est
qui,
les parachutes dorés.
Les parachutes dorés, etc. Alors, à chaque fois, on dit les patrons. Ce qu'on oublie, c'est que ce ne sont pas des chefs d'entreprise, ce sont des chefs dans l'entreprise, ce qui n'est pas pareil.
C'est pas eux qui ont créé.
C'est pas eux qui ont créé. Et puis, écoutez, pour dire les choses clairement, c'est pas eux qui ont leur fesse sur le barbecue.
C'est pas leur argent. Bon, c'est pas leur argent.
Oui, et je pense que ça prend. Mais il y a l'aspect pécuniaire, bien évidemment. Mais quand vous êtes patron, et je sais que les personnes autour de cette table s'y reconnaissent sans doute, quand vous êtes dans une boîte de 10 personnes, 50 personnes, on n'a pas besoin de vous faire une leçon de choses sur la conscience sociale. Vous connaissez tous vos collaborateurs, vous connaissez leur famille, vous connaissez leurs problèmes. Évidemment, quand vous dirigez 55 000 personnes et que vous communiquez avec la télévision interne ou par mail, c'est pas le même niveau de proximité. Donc là-dessus, je pense que, je n'ai pas compté toutes les PME, mais on n'a pas besoin de beaucoup de leçons de choses. Mmh. On est déjà, si vous voulez, on a des lois, on a des structures. Donc simplement, je pense que on ne favorise pas. Simplement, on se rend compte, un peu tard sans doute, que l'économie, c'est nous.
C'est nous, les PME. Il y a ce projet de modulation de l'impôt sur les sociétés qui est prévu avec un rehaussement à 35% pour les grands groupes, 30% pour les PME et une descente jusqu'à 15% pour les plus petites entreprises. Bernard Cohen-Haddad, ça va dans le bon sens.
Ça va dans le bon sens puisque nous l'avions demandé depuis un certain temps. Nous demandions aussi la réaffectation en fonds propres d'un certain nombre de bénéfices défiscalisés. Donc, pourquoi pas? Je reviens un moment sur ce que vous avez dit tout à l'heure qui concerne l'option priorité PME du gouvernement. Dont acte, on verra. Mais faisons attention les uns et les autres, puisque nous sommes effectivement tous des chefs d'entreprise autour de cette table, même vous, notre interlocuteur.
Tout à fait.
Nous sommes tous des chefs d'entreprise et faisons attention néanmoins à ne pas opposer les grands groupes, je le dis bien, les TPE, les PME. Nous sommes dans un bateau, il faut travailler ensemble, nous avons des intérêts qui ne sont pas forcément si divergents que ça. Nous ne sommes pas non plus les mêmes structures, nous ne pensons pas les mêmes choses, nous vivons les mêmes lois, nous devons travailler ensemble parce qu'effectivement, il faut que ceux qui sont les plus forts à l'international, vous l'évoquiez tout à l'heure, puissent entraîner ceux qui n'ont pas les moyens d'y aller, de les encourager, de les porter. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas notre mentalité, il faut que ça change et il faut qu'on travaille ensemble. Il y a aujourd'hui un certain nombre de structures qui vont dans ce sens-là. J'en termine en 2 minutes.
PME notamment.
Pacte PME notamment, puisque Jean-François Roubaud a signé une tribune dans Les Échos il y a quelques jours.
Très bonne initiative.
Il faut effectivement dire qu'on doit se parler, on doit travailler ensemble, mais on doit rester soi-même. Nous ne sommes pas non plus désintégrés, désincarnés. Nous avons nos sensibilités, nous avons effectivement nos préoccupations sociétales, comme on le disait, et nos différences.
Laurent Wansky.
Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il ne faut pas voir l'économie de façon assez binaire. Donc mettre les grands groupes qui ne sont pas vertueux d'un côté, les PME qui le sont. Simplement, moi j'attire l'attention de nos gouvernants sur le fait qu'on a des appareils juridiques qui sont les mêmes pour une boîte de 10 personnes que pour une boîte qui en fait 55 000. Donc on ne pilote pas pareil un speedboat qu'un porte-avions. Donc simplement, je pense qu'il y a clairement besoin d'une différenciation. Et comme le disait Pierre, je veux dire que quand on a une boîte de 10 personnes, qu'on n'a pas un DAF, qu'on n'a pas un service ceci, qu'on n'a pas un service cela, il faut des choses simples. Donc déjà, si on peut dégager du temps pour que les chefs d'entreprise, justement, entreprennent, ça sera déjà un pas de géant.
Une autre exception qui sera faite a priori pour les PME, en tout cas celle de moins de 20 salariés, c'est que la fin des exonérations de charges sur les heures supplémentaires ne les concernera pas.
Alors, par contre, pour celles qui font plus de 20 personnes dont je fais partie, je pense que c'est une erreur colossale.
Bon, un moment, une question. Il y a un effort national qui est demandé. Les entrepreneurs doivent également contribuer. Comment on gère cette balance?
Excusez-moi d'intervenir, mais je ne suis pas convaincu que depuis septembre 2008, les chefs d'entreprise ne contribuent pas à l'effort national. Je pense qu'ils y contribuent en priorité. À la fois les patrons de TPE, les patrons de PME et même leurs salariés. Je crois que malheureusement, depuis septembre 2008, l'entrée dans la crise, nous sommes les uns et les autres à contribuer. On n'a pas acheté une voiture plus grosse et on ne va pas plus souvent en vacances. On travaille deux fois plus avec des revenus qui sont un peu moindres. C'est important de le rappeler, si vous me le permettez. C'est important aussi de le dire et de le faire savoir.
Pierre Lasserie.
Oui, ce qu'il faut rappeler, c'est un truc super simple, c'est que plus une entreprise gagne de l'argent, plus elle paye d'impôts, et donc plus elle contribue à la richesse nationale. Et donc aujourd'hui, faire des mesures, je pèse mes mots, de discrimination positive à l'égard des PME qui ne peuvent pas être logées à la même enseigne avec ces mêmes dizaines de milliers de textes, ces mêmes taux d'impôts. Puisque on voit bien, notre étude, pardon d'y revenir, elle l'a bien montré, à ISO dispositif réglementaire, on voit que les grands groupes payent 25% de moins que les PME. Je ne suis pas en train de renvoyer dos à dos ces deux catégories, avec d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. Sans les grands groupes, l'économie française serait dans un état encore bien, bien pire que l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il faut, bien entendu, il n'y a pas les gentils, les méchants. Mais il faut des mesures spécifiques pour les PME, car sans quoi elles ne s'en sortiront pas. Et en leur permettant d'avoir un coût du travail plus faible, d'avoir des dispositions d'allègement de manière générale pour qu'elles soient plus compétitives, elles vont faire plus de profits, elles vont payer plus d'impôts et donc la réduction du déficit et peut-être un jour la réduction de la dette en France en valeur absolue, et on n'y est pas. L'idée, c'est de ralentir le creusement, c'est pas de rembourser de la dette. Ça pourra aller dans le bon sens. Il faut des mesures pour les PME spécifiques.
Et alors cette banque publique d'investissement,
je voudrais juste répondre à votre question, oui. Qui est à mon avis une question fondamentale. Comme le soulignait Pierre, effectivement, une entreprise qui gagne de l'argent paie des impôts. Simplement, moi, je pense que l'effort de guerre, on y participe depuis la création d'une entreprise, puisqu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, et sans doute beaucoup de vocations qui vont se déclarer. Quand vous embauchez une personne, il faut savoir que, vous le savez tous, messieurs, 1 euro de salaire génère 90% de charges sociales entre la part patronale et la part salariale. Donc ça, c'est déjà vertueux, puisque vous donnez pas seulement un salaire à une personne, vous lui donnez de la dignité, puisque vous lui donnez un travail. Donc, moi, je pense que c'est un élément fondamental parce que je dois vous dire que moi, je sors un petit peu Marie de cette campagne électorale. Pourquoi ? Parce que j'ai eu le sentiment qu'on était un petit peu de retour dans les années 60 et qu'on opposait, si vous voulez, deux mondes. C'était un peu la lutte des classes. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut bien souvenir que quand on crée une entreprise, quand une entreprise prospère, c'est tout le monde qui gagne. C'est les gens qui sont dans l'entreprise, c'est les gens qui sont en dehors de l'entreprise parce que ça contribue à la création d'un écosystème, c'est les actionnaires. Donc je pense qu'il y a un vrai besoin de réhabiliter l'entreprise.
Vous parlez d'actionnaires, il y a un projet de taxation sur les dividendes qui est en cours à hauteur de 3%.
Donc la question, c'est bien, c'est pas bien ?
Ouais.
Je pense que
c'est normal, c'est pas normal.
Ce qui me dérange, je vais vous dire, ce qui me dérange, je pense que moi je suis dans l'économique, je suis pas dans la politique. Ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des mesures qui ne sont pas motivées par un impact économique, mais qui sont des messages
symboliques.
Et ça me dérange. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous des actionnaires et nous avons tous des dividendes. Alors simplement, beaucoup de gens ne le savent pas, mais quand ils ont des fonds retraite, des fonds épargne retraite, quand ils mettent un peu de sous dans l'assurance vie, quand ils font des choses comme ça, je veux dire, comment est-ce que le contrat d'assurance vie, qui est juste l'investissement favori des Français, comment est-ce que ce contrat d'assurance vie peut progresser dans le temps en termes de valeur, c'est pas par l'opération du Saint-Bénéfice ou du Saint-Esprit, c'est parce qu'il y a des placements et parce qu'il y a des actionnaires et qu'il y a des dividendes. Donc, ça n'est pas une chose qui est négative. Au contraire, si une entreprise verse des dividendes, c'est qu'elle est prospère. Donc, nous sommes tous des actionnaires. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ? Je ne sais pas répondre. Je ne sais pas répondre. Par contre, si c'est un message politique qu'on vit, je pense que c'est un mauvais message.
Bernard Cohen-Haddad, l'assureur que vous êtes, souhaitait réagir.
Oui, plus globalement, on a besoin de 10 milliards cette année pour terminer l'année. On a besoin de 33 plus 5 milliards pour 2013. Donc on a bien compris les uns et les autres qu'il va falloir trouver cet argent quelque part. Mon inquiétude, ma préoccupation, c'est pour nous, chefs d'entreprise. On crée une entreprise parce qu'on a un projet les uns et les autres. Soit un projet qu'on a porté familialement, soit de création. Vous l'avez fait, vous, dans cette radio. C'est une création.
Mais
ça n'existait pas.
Dans tout ce bâtiment, il n'y a que des créations.
Voilà. Ouais. Donc ça, c'est formidable. Néanmoins, si demain, il n'y a plus d'intérêt pécuniaire, d'intérêt de développement, d'intérêt entrepreneurial à se développer, comment voulez-vous qu'on relance la croissance ? Ce n'est pas possible. Et c'est ça, à mon avis, qui est difficile aujourd'hui. C'est à la fois reconnaître les uns et les autres que nous avons besoin, et nous en avons besoin, de mesures qui nous aident à nous développer. On parlait tout à l'heure, les uns et les autres, de la compétitivité, de la flexibilité dans nos entreprises, la possibilité d'embaucher rapidement, mais aussi de débaucher sans que ça ne coûte trop cher, parce que sinon, on ne réembauche pas. Et aussi, cette volonté de contribuer à l'effort national. Ce sont deux choses qu'il faut équilibrer. Mais à mon avis, le fléau de la balance doit être plutôt celui dans le sens d'un encouragement à la création de richesses, parce que tout le monde en profitera.
Et je compléterai les propos de Bernard. Il faut déculpabiliser les chefs d'entreprise. C'est très, très important.
À quel niveau ?
J'ai eu le sentiment, ces quelques mois, j'ai peut-être mal entendu, mal vu, mais j'ai eu le sentiment que quelque part, on avait divisé le monde en deux et qu'on était avec une vision assez manichéenne, les bons et les méchants. Donc, ouais. Je rappelle qu'une entreprise, quand une entreprise se crée, qu'elle se développe, tout le monde est gagnant. Ouais. Tout le monde.
Pierre Vasserie.
Mais par rapport à votre question sur cette mesure qui était un peu une mesurette, la question des taxations et des dividendes, le sujet, il faut revenir aux fondamentaux. Et ça, je pense que tous les chefs d'entreprise sont d'accord. Et il faut baisser les dépenses. Avant d'aller chercher des impôts en plus, il faut baisser les dépenses. L'État doit baisser ses dépenses. Et moi, je trouve quand même qu'il y a une bonne raison de se réjouir. On a eu une campagne présidentielle qui était un petit peu ubuesque ou... Pour faire simple, personne n'en a parlé, parce que c'est un sujet anxiogène, etc. Là, on voit la gauche dite avec cette réputation de laxisme, et on a parlé que de la création des 60 000 fonctionnaires en plus dans l'enseignement. Là, on voit quoi ? On voit une rigueur extrêmement forte qui est demandée. On voit
une rigueur assumée peut-être dans les faits, mais pas sur les mots. Pierre Moscovici, je crois expliquer.
Ouais, il veut pas du mot rigueur, mais ça c'est de la sémantique, c'est des trucs de médias. La réalité, c'est que on a un gouvernement qui se remonte les manches et qui fait face aux responsabilités et qui dit on va baisser de 15% les dépenses de fonctionnement en 3 ans, avec 7% en 2013 et 4,4% en 2014 et 15. On parle de 19 milliards d'euros quand même, hein, c'est des grosses sommes. C'est ça le sujet aujourd'hui. Le sujet pour l'État, c'est de baisser les dépenses. C'est après les petites mesurettes, c'est comme pendant qu'on y est, les 75% sur les hauts revenus. Tout le monde sait, et je pense que François Hollande, le premier, qu'on marche sur la tête, que c'est de nature.
Il l'avait dit dans une vidéo qui est sortie en off.
Moi, je prends le pari. Alors, ça se trouve, alors même que je parle, il est en train de dire l'inverse, mais que ça ne va pas se faire, parce que c'est ubuesque. On marche sur la tête. Comment voulez-vous inciter quelqu'un dans un pays déjà aussi compliqué, aussi cadenassé, avec des textes aussi compliqués, alors qu'il y a plein de pays qui nous ouvrent les bras, qui ouvrent les bras
dont,
des jeunes entrepreneurs.
Dont David Cameron qui
oui, mais moi, je pensais à un peu plus loin, si tu veux.
Encore un peu plus
Brésil,
loin.
Brésil, Inde, Chine. Il y a pas, il y a des pays aujourd'hui où il y a des choses extraordinaires qui se passent avec des taux de croissance à 2 chiffres qui tendent les bras à tous les jeunes diplômés. Pourquoi vouloir créer une entreprise en France si en plus de ça, on vous explique que si, malgré les 250 000 obstacles, si un jour vous réussissez, on va vous en prendre 3/4, voire la totalité, ça va pas fonctionner. Donc je pense que tout le monde est d'accord, ce sont des mauvaises mesures. Le vrai sujet, c'est la dépense qu'il faut diminuer pour arrêter d'avoir un État qui creuse chaque année sa dette et dont le premier poste de coût, c'est quand même le paiement des intérêts de la dette. Enfin, faut quand même le voir, c'est dingue. Ça, c'est quelque chose dont la gauche semble s'être emparée. Et ça, je pense que c'est quand même la bonne nouvelle.
Pierre Lasserie, je vais au bout de votre idée. Vous parliez de cette mesure à 75% d'imposition pour les revenus supérieurs à 1 million d'euros. David Cameron qui ouvrait grand les bras à nos entreprises françaises pour du coup payer les écoles et les routes anglaises. Aujourd'hui, cette mesure passe. Les entrepreneurs que vous êtes quittent le territoire ou c'est quand même
vous
exagéré?
Vous connaissez le salaire moyen d'un chef d'entreprise de TPE, PME, là, puisqu'on est entre nous.
Je sais que beaucoup déjà ne se payent pas quand ils
sont entreprises. Non, mais c'est combien ? C'est 4 600 euros. Attendez,
en moyenne.
C'est pas des salaires mirifiques, c'est comme dans la haute fonction publique, voire moins. Je crois qu'il faut être responsable.
Donc ça s'adressait pas...
Avec une garantie de l'emploi qui n'existe pas.
Donc c'est David Cameron qui se trompe en se servant de cette mesure pour inviter les entreprises françaises.
Justement, par rapport à ce qui vient d'être dit sur la priorité, c'est la réduction des dépenses. C'est une des priorités, mais... L'économie, la richesse d'un pays, c'est une baignoire. Donc, évidemment, on gère la bonde qui évacue l'eau, mais s'il n'y a pas d'eau qui rentre dans la baignoire, même si on ouvre la bonde en grand ou si on la restreint, il ne se passera plus rien. Donc, il est fondamental d'avoir un programme d'accompagnement pour créer de la richesse, de déculpabiliser les gens. L'histoire de cette taxe à 75%, bon, je pense que ça n'a pas touché beaucoup de monde autour de la table. Bon. Mais c'est quoi le message ? C'est quoi le message ? Et là, c'est un message politique. C'est en clair, on dit que c'est l'État qui peut statuer sur ce qu'il convient d'appeler un niveau normal de rémunération. La dernière fois qu'on a entendu ça, bon, moi j'ai quelques origines russes, hein, Vronsky, c'était... République soviétique. Bon. Donc moi, j'ai déjà un souci avec ça.
C'est pour ça que vous étiez déjà parti à l'époque.
Bah oui, mais je vais vous dire, ma famille est partie, oui, elle est partie dans les années 20, et elle est partie parce qu'en clair, elle a tout laissé sur place. Pourquoi ? Vous le savez très bien. Bon. Simplement, ce que je veux dire, c'est que justement, ça, ce sont des mauvais messages. Parce que c'est un message politique. Et Cameron, qui est malin comme un singe, il a très bien compris la musique.
Mais c'est pour ça que ça ne se fera pas, surtout. Parce que comme c'est un message que politique, ce n'est pas un message qui a une réalité. Et encore une fois, j'espère ne pas être démenti en même temps qu'on parle, mais ça ne se fera pas. C'est tellement absurde que ça ne se fera pas.
Ce qui est grave, c'est que s'il y a des jeunes qui nous écoutent, et je sais qu'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui ont des bons projets, et qui se disent, est-ce qu'aujourd'hui, parce que je vais en prendre pour 5 ou 10 ans si je crée une boîte, est-ce que vraiment j'ai raison de le faire en France ? Et j'ai plutôt intérêt à le faire en Belgique, par exemple, en Hollande ou en Angleterre. Pour le pays, c'est absolument dramatique. Donc pour répondre à votre question, moi, j'ai aucune raison de partir. Je suis chez moi, je suis dans mon pays. Simplement,
c'est plus au niveau des créateurs d'entreprises qu'on risque de...
Mon rôle, puisque j'ai une casquette, si vous voulez, Croissance Plus, c'est d'essayer d'influer sur le destin de mon pays pour qu'il crée un terreau favorable à l'entreprise. Mais moi, je ne vais pas démissionner et aller et traverser la Manche.
Bernard Cohen-Haddad.
Mais moi, je ne voudrais pas qu'on joue à se faire peur, hein, parce que... On l'a bien dit tous les trois. En tout cas, moi, je n'ai pas peur et je continue. On a bien vu. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, pour ma part, c'est de voir comment on va pouvoir encourager le financement des entreprises dans la crise qui dure. C'est ça, comment on va pouvoir à la fois en création, mais aussi en développement, voire à l'international. On a Laurent qui a une belle boîte qui exporte. Comment on peut effectivement trouver des financements pour accompagner nos entreprises dans ce développement-là? C'est ça qui me semble fondamental, parce que compte tenu d'un certain nombre de règles prudentielles, compte tenu d'un certain nombre aussi de situations des grandes banques, on a tendance à avoir aujourd'hui une restriction de l'accès au crédit quand les entreprises sont fragiles. Et quand une entreprise est fragile, ça ne veut pas dire qu'elle est défaillante. Ça veut dire tout simplement qu'elle connaît un moment difficile à un moment de son développement et de sa vie.
Vous parliez tout à l'heure en introduction de l'inquiétude des dirigeants suite au 14e baromètre que vous avez mis en place avec KPMG, la CGPME. Qu'est-ce qui ressort de ça et en termes de financement, qu'est-ce qu'on peut faire, messieurs, pour favoriser nos entreprises? Je démarre avec vous, Bernard Cohen-Adam.
Tout simplement, je crois qu'il faut tout d'abord renforcer le dialogue banque-PME. Pour moi, c'est la priorité. Un chiffre, plus de 62% des entreprises de moins de 2,5 millions d'euros hors taxes de chiffre d'affaires n'ont qu'un seul partenaire, un banquier de proximité. 20% ont plus de deux banquiers. C'est trop peu. Deuxièmement, il faut mettre en place d'autres sources de financement, parce que compte tenu d'un certain nombre de règles, les banquiers ont tendance à ne plus jouer le jeu du crédit. Ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas uniquement, c'est qu'ils ne le peuvent plus prudentiellement. Donc, et on en reparlera, je vais être très bref, rassurez-vous, c'est l'accès aux marchés financiers, le rapport GMI-RAMEX, il y avait un discours d'Europlace hier et aujourd'hui, le financement à travers le capital investissement, et là, Croissance Plus a des choses à dire, puisqu'on a travaillé avec eux un moment dessus. Il y a aussi l'accès à ce qu'on appelle l'investissement des particuliers, ça peut être des business angels. Troisièmement, quatrièmement, il y a tout ce qu'on appelle tout simplement la titrisation, l'obligataire pour les PME. Et quatrièmement, ne l'oublions pas, vous l'avez évoqué, mais personne ne vous a répondu, c'est les financements publics terme, les financements publics de long terme, c'est-à-dire la banque publique des entreprises, mais aussi les financements régionaux. Ça, ça reste à construire. Il y a des bonnes pratiques dans les régions. Il faut le faire savoir, il faut qu'on en profite.
Alors, on a quand même des banques qui communiquent régulièrement sur la facilité d'accès au crédit chez elles. C'est une réalité que vous percevez, vous, entrepreneur, Laurent Vansky?
Alors, moi, je ne suis pas le bon exemple pour répondre à votre question, parce que Hervor n'a pas un seul euro d'emprunt. Et ça, c'est une volonté délibérée. Quand j'ai repris cette entreprise en 1994, donc on avait du passif. Et j'ai souhaité me désengager parce que j'ai foi en deux choses. D'abord, je pense que... Moi, j'ai terminé mes études en 86, j'ai fait une école de commerce. Et je sais qu'en clair, ce qu'on nous apprenait, c'est qu'il fallait faire fonctionner la pompe à emprunt à fond. À fond.
Avant d'aller chercher le chiffre d'affaires.
En clair, aujourd'hui, on pouvait, un petit peu comme ça s'est passé dans l'immobilier, mais où on pouvait acheter un appartement sans un sou. Bon. Donc nous, on a été éduqués comme ça. Donc je pense que là, c'est terminé l'ère du leverage. Et que maintenant, on quitte le leverage et maintenant, on rentre dans l'ère des fonds propres. Donc je pense que les entreprises qui vont tirer leur épingle du jeu pour les 20 ans à venir sont celles qui ont des fonds propres, ce qui est l'inverse de ce qu'on m'a appris. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Donc moi, j'ai mis mes convictions au pied du mur et nous avons entièrement désengagé Hervor. La deuxième chose, c'est qu'au niveau des banques, c'est ce qu'expliquait Bernard, beaucoup de PME n'ont pas accès à des modes plus sophistiqués de private equity pour le financement. Elles vont tout simplement pousser la porte de l'agence du coin. Et moi, je dois dire une chose. Je suis comme assez consterné du niveau moyen, du gestionnaire de compte moyen qui s'adresse au monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous appelez Rhône Poulenc et que vous voulez lever 1 milliard d'euros, là, vous allez avoir des têtes pensantes. Mais si vous appelez Hervor et que vous voulez négocier un découvert de 20 kilos d'euros, je pense que le niveau moyen du gestionnaire de compte moyen, c'est juste pathétique. Ce qui veut dire
ça
que quand j'ai vu ça...
plaisir à ton banquier, ce que tu viens de dire.
Écoute, tu sais, je vais te dire autre chose. Je vais dire une chose. Non, j'en ai, je lui ai dit. Ouais. Mais alors, simplement, je pense que j'ai deux...
Tu lui as dit que tu étais consterné ou pas?
Oui, je dis que j'étais consterné parce que je trouve... Et c'est un élément, à mon avis, fondamental. On s'est aperçu qu'il y avait, en clair, deux courbes inverses. Un, la montée des commissions et la courbe qui descendante, qui est la baisse du temps disponible et de la formation du gestionnaire de compte moyen. Pourquoi c'est important? Si on a des gens qui ne connaissent pas la boîte, qui ne connaissent pas votre secteur, comment est-ce qu'ils vont être équipés? Comment est-ce qu'ils vont être outillés pour défendre auprès d'un comité de crédit une augmentation de découvert ou un financement? Ils ne le seront pas. Et si en plus c'est la même personne qui gère le découvert de Madame Michu de 200 euros, la vente de la police d'assurance, j'ai rien contre les assurances, mais de la mobilette, du voisin, etc., je veux dire, clairement, la personne ne pourra pas se consacrer à ton entreprise. Donc ça, je pense que c'est un problème fondamental, parce que la première porte d'entrée, c'est l'entrée de la banque, et que la première voie du financement, c'est d'avoir en face de soi un gestionnaire de compte, voire un comité de crédit qui s'intéresse à votre secteur et qui soit capable de le comprendre.
Pierre Asselineau, un mot rapide.
On conseille 2500 entreprises dans le monde, dont 1500 en France. Je veux dire, il est évident que les PME aujourd'hui font face à une réduction de la voilure exigée par leurs prêteurs, et que les banques, qui sont au demeurant des partenaires naturels, évidents, et de très bonne volonté des entreprises, ont des directives qui leur viennent de tout en haut et qui sont liées aux réglementations bancaires et aux fameux ratios, Bâle 3, etc., qui on leur demande de diminuer leur exposition parce qu'il y a eu la crise des subprimes, etc., etc. Donc aujourd'hui, il est évident que les PME ont besoin que l'État les aide à des financements. Et à ce titre, la banque publique d'investissement, il y a banque dedans, c'est une bonne mesure qui est de nature à mettre de l'essence dans le moteur. Je ne suis pas un adepte
de l'huile dans le compresseur.
Bon, alors c'est l'industriel qui parle
exactement. Messieurs, un mot très rapide sur la médiation du crédit, la médiation des relations inter-entreprises. Ronski.
Très bonne chose. Très très bonne chose, ouais. Je sais que ça a très très bien fonctionné, des gens de terrain avec des décisions rapides qui ont sauvé énormément d'entreprises, donc on ne peut que saluer cette action formidable.
Bernard Cohen-Adan.
Il faut la maintenir, la développer et l'institutionnaliser.
Ouais, bravo.
Bon, le travail, vous êtes efficace.
Tout à fait d'accord, le travail on est très proche, nous, de la médiation des relations inter-entreprises, puisqu'on conseille les entreprises dans leur pratique d'achat, qu'il s'agisse des petites, des moyennes et des grandes entreprises. L'action entreprise par Jean-Claude Volo est extrêmement bénéfique.
Il fait un travail exceptionnel.
Parce qu'elle dénonce des pratiques.
Très courageux.
Oui, parce qu'il met le doigt sur... Il a baptisé le secteur de la grande distribution le musée des horreurs. Il met le doigt, et nous on le voit en tant que PME, confronté à un certain nombre de pratiques des grands donneurs d'ordre, aussi dans les cadres des appels d'offres auxquels nous sommes nous-mêmes confrontés. Les pratiques ne sont pas les bonnes, et au même titre que René Ricol, avec la médiation du crédit, a mis à jour un certain nombre de pratiques qui n'allaient pas entre les banques et les PME, aujourd'hui, Jean-Claude Volo prend le relais sur les relations entre les grands groupes et les PME. Encore une fois, il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit, mais il y a besoin d'une régulation, et il est en train de la mettre en place. Et en ce qui nous concerne, Wendal Massai, on est en proche collaboration avec eux là-dessus.
Messieurs, très rapidement, on m'a fait passer quelques commentaires Facebook, Twitter et notamment on a Thierry Curti qui nous dit « La fiscalité est devenue une telle usine à gaz qu'il n'existe personne qui soit capable de la comprendre. » C'est les 6000 normes dont vous parliez tout à l'heure, Bernard Cohen-Adan.
Si on n'est pas effectivement avocat spécialiste d'un grand cabinet, je dis bien d'un grand cabinet parce qu'il y a aussi chez les avocats des TPE et des grands groupes, en tout cas quand on est un patron de TPE, PME, et qu'on a un problème fiscal, c'est rare qu'on le résolve dans la nuit tout seul.
Lansky.
Moi, je voudrais juste apporter un complément d'information sur le financement des entreprises. Ouais. Le crédit aujourd'hui le plus important, qui est la valeur la plus importante, c'est le crédit inter-entreprise. À savoir, ce sont les entreprises qui se prêtent à elles-mêmes. Alors, comment est-ce qu'elles se prêtent à elles-mêmes? Vous émettez une facture et on met 45 jours si vous avez de la chance, 45 mois, vous réglez si vous n'en avez pas. Bon, il faut savoir que là, vous avez un gisement absolument extraordinaire puisque vous avez parlé de la Banque de l'Industrie qui est financée à hauteur de 1 milliard d'euros.
C'est ça.
Il faut savoir que le crédit moyen en France aujourd'hui, c'est 72 jours. C'est déjà contraire à la loi. Bon, donc si on arrivait...
Mais ça va en s'améliorant encore.
Oui, mais enfin, c'est 72 jours. Et un jour, ça vaut 1 milliard d'euros. Donc il faut savoir que si on arrivait à baisser de 72 à 60 jours le crédit inter-entreprise, on pourrait financer 12 banques de l'industrie.
Bien sûr.
Ah, un tour dernier mot, excusez-moi, le temps nous est compté. On a le Premier ministre qui dit « Je crois que favoriser le travail contre la rente est une mesure de justice ». Un commentaire.
Bah oui, c'est bien.
Très bien.
Très bien.
Ça me semble une évidence.
Bah oui, c'est évident. Moi, je suis, encore une fois, je préfère le jour à la nuit. La neige, c'est froid et la pluie, ça mouille.
Ah, il dit aussi, j'estime les chefs d'entreprise, mais je ne les confonds pas avec des parachutistes ou des spéculateurs sans scrupules.
Oui, parce qu'il faut, à un moment donné, patron de grands groupes et chef d'entreprise qui a tout son patrimoine dans l'entreprise, il faut quand même à un moment donné faire la distinction, et l'amalgame qui est souvent fait est conduit à de graves erreurs. Moi, je voudrais juste répondre à la question de l'auditeur. Le fait qu'aujourd'hui le maquis réglementaire soit tellement touffu que personne ne s'y retrouve, c'est l'une des raisons. C'est l'une des premières raisons pour lesquelles la taxation des entreprises de taille moyenne et petite est largement plus forte que celle des grandes. Parce que on a dans l'entreprise, quand on est un grand groupe, des moyens pour appréhender une partie du maquis, une partie, tout, personne n'en est capable, et aucun avocat, aussi fiscaliste soit-il, ne peut être spécialisé dans tout. Parce qu'il y a tellement de taxes, tellement de lignes dans la fiche de paye en France, tellement de complexité, qu'on ne peut pas être spécialiste de tout à la fois. Mais quand même, dans les grands groupes, il y a plus de moyens pour faire face à ce maquis, et c'est la raison pour laquelle il y a une telle différence de 25%, je le rappelle, entre les PME et les grands groupes.
Voilà, bah écoutez, c'est la conclusion de cette première émission live d'Entrepreneur.
Super, merci
le
beaucoup.
Live. Un grand merci à vous. Merci, je le rappelle, vous étiez avec nous, Laurent Vronsky, vice-président de Croissance Plus, dirigeant d'Hervor. Également avec nous, Pierre Lasserie, dirigeant de Lowen Dalmasai. Et enfin, Bernard Cohen-Haddad était avec nous. Vous êtes président de la commission financement des PME à la CGPME. On se retrouve, quant à nous, chers auditeurs, la semaine prochaine où nous parlerons du sommet social. À très bientôt, et on poursuit sur WeDoBiz.